Et on revient maintenant à notre Bible, dans le chapitre 4 du livre des Juges. Et j'aimerais ce matin, tout simplement commencer en vous lisant quelques versets de cette histoire que plusieurs d'entre vous connaissez, mais qu'on n'entend pas souvent des prédications. De un, on n'a pas beaucoup de prédications dans les Juges, tout court. C'est pas un livre populaire. C'est un livre même qui, pour certains, est un peu considéré comme sanglant, troublant, parce qu'il y a des histoires pas ben ben catholiques là-dedans, si vous me comprenez, avec de la moralité douteuse, des leaders parfois douteux, un peuple qui ne fait pas gloire à Dieu, mais pas du tout, et avec de la violence aussi, des combats, des guerres, et les détails nous sont donnés. Parfois, c'est troublant. Et donc, c'est pas un texte populaire. Et pourtant, il y a des perles. On va pas regarder tous les chapitres, comme je vous l'ai mentionné, mais on va regarder ce chapitre 4 ensemble. Et j'aimerais vous lire quelques versets avant de commencer et de prier ce matin. Chapitre 4, verset 1. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Après qu'Éhud fut mort, et Éhud est un juge qui était dans le chapitre précédent, il a été là pendant beaucoup d'années, on va le voir dans quelques instants, et malgré tout, bien, immédiatement après, il s'éloigne de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Bien, l'Éternel les vendit. Oui, c'est bien le mot « vendre » qui est là. Il les a vendus entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsar, donc une ville très au nord. Les chefs de son armée, le chef, Sisera, et il habitait à Asrochet-Goyim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadès-Nephtali, et elle dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers la montagne de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, et notez bien ici, j'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, moi je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et à ce point-ci, quand on lit d'une femme, on se dit, « Ah, certainement, c'est Déborah à qui il fait allusion. » Mais est-ce vraiment Déborah? Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kadès, et Barak convoqua Zabulon et Nephtali, les deux tribus, à Kadès. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Et là, on fait une petite note qui peut sembler étrange. Héber, le Kénien, était séparé des Kéniens, des fils d'Orab, beau-père de Moïse. Donc, on comprend que cette famille-là, il y a un lien avec la belle famille de Moïse, son beau-père. On retourne loin en arrière ici-là. Et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsinéim, près de Kadès. Et donc, on est comme une petite note bizarre de proche de ce lieu-là de combat, il y a cet homme-là, de la famille de Liek Moïse qui est là, puis on se demande, mais pourquoi cette petite note, elle nous prépare pour le reste du récit? Mais avant d'aller plus loin, on va s'arrêter ici, puis on va prier le Seigneur. Bon Père Céleste, c'est la parole de Dieu qu'on vient de lire. C'est pas juste une simple histoire. C'est une histoire qui nous a été préservée depuis plus de 3 000 ans. Une vraie histoire, avec des vraies personnes qui souffraient, avec des vrais héros parfois inusités, des gens qui se sont tenus dans la brèche lorsqu'il y avait des moments importants de l'histoire. Seigneur, instruis-nous ce matin. Parle-nous. Alors que nous aussi, nous sommes dans un moment clé de l'histoire. Alors que, Seigneur, tu veux aussi encore aujourd'hui utiliser des hommes et des femmes qui vont être prêts à se lever debout et se tenir debout dans la brèche, alors qu'il y a un manque de leadership. Qui veux-tu, Seigneur, qui se lève, qui exerce la foi, où et quand, pour toi, dans cette société, Seigneur? Puissions-nous, Seigneur, être des hommes et des femmes de foi, comme Barak et Déborah, entendre l'appel de Dieu sur nos vies. Bénis ce temps, Seigneur, dans ta parole. Parle à nos cœurs, nous te prions, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, on a sauté le chapitre 3. Et juste avant de sauter le chapitre 3 et vous expliquer où ce qu'on est, bien, à juste mettre le diaporama qui est déjà est là derrière. Moi, je ne l'ai pas encore devant moi ici. Alors, une petite photo de l'autre côté de la planète. Alors, on a des membres d'église qui écoutent en direct ce matin, encore aujourd'hui. On les salue à l'île Maurice. C'est vraiment l'autre côté de la planète, pour ceux qui savent c'est où. Alors, et vous voyez, l'autre côté de la planète sont capables d'écouter en direct la prédication. C'est pas merveilleux, c'est la technologie? En vacances ou en visite, et pourtant, ils peuvent être bien et bien avec nous en direct. Pas à la même heure, évidemment, là. Ils sont pas exactement au même moment. Et on les salue à l'autre bout du monde. Et on remercie le Seigneur pour la technologie. Alors, nous sommes dans notre série. Et ce matin, bien, on est en train de regarder le chapitre 4 et 5. On lira pas tout le chapitre 5, c'est le chapitre 4 qu'on va se concentrer dessus, puisque le chapitre 4 nous raconte l'histoire et le chapitre 5 nous... Je vais peut-être avoir besoin d'un technicien pour m'assurer que je puisse voir en avant, là, ça allume pas comme je voudrais. Et donc, le chapitre 5, lui, nous donne une poésie, un chant qui a été écrit après, de célébration de cette victoire, qui nous donne aussi quelques informations intéressantes sur des parties de l'intrigue du chapitre 4. Au chapitre 3, il y a eu un fermier, il y a eu un gaucher, il y a eu un homme qui fait partie de la tribu de Juda qui ont été utilisés comme juges. Et là, tout à coup, on nous présente une femme. Une femme qui se tient dans la brèche, Déborah. La seule autre femme de l'Ancien Testament qui porte ce nom-là, c'est la nourrice qui avait accompagné, vous vous rappelez, peut-être Rebecca, hein? Et son nom veut dire abeille, tout simplement. Déborah veut dire abeille. En fait, quand les Hébreux lisent ça, on a l'impression de dire, de pas nommer une personne, mais abeille fit cela, et abeille était prophétesse. C'est le mot abeille, tout simplement, qu'on retrouve aussi au chapitre 14 dans l'histoire de Samson. Et donc, as-tu besoin de ça? Juste ici. Et donc, Déborah, cette femme intrigante qui se présente devant nous. Je vous rappelle ici qu'on vient de passer à travers les deux premiers chapitres d'introduction. Et là, on est dans cette série de différents juges dans le cœur du livre. Il y en a quatre qui prennent beaucoup de place et il y en a des plus petits, moins populaires, dont le moins d'informations, néanmoins, qui ont été là dans l'histoire. Des fois, pour toutes sortes de raisons, leur histoire nous a pas été préservée. Mais quelques-uns des faits saillants sont ces juges très populaires qu'on va regarder, dont Gédéon, Jephthé. Et à la jeunesse cette semaine, bien, on l'a regardé justement Samson. Cet homme un peu énigmatique, qui est tout sauf un leader, et pourtant Dieu va l'utiliser. Cet homme immoral, cet homme qui prend des décisions selon ses yeux, cet homme qui finit mal aussi, et qui n'amènera pas de repos en Israël, mais qui a commencé une délivrance. C'est Saül et David qui vont continuer et compléter cela, puisqu'il est proche de la fin de la période des juges. Ouais, c'était pas dans mon PowerPoint, ça, hein? Maintenant, ce que j'aimerais vous faire remarquer en commençant, je vous lis quelques paroles du psaume 83. Vous pouvez écouter tout simplement le psaume 83, versets 10 et 11. Un psaume qui rappelle souvent, comme bien d'autres les psaumes, des louanges à Dieu pour des faits saillants du passé. Et il va dire ceci, « Faites pour eux, en parlant de leurs ennemis, comme tu as fait à Sisera. » Il rappelle cette histoire dans ce chapitre, Sisera qui est ce chef d'armée qui va mourir. Seigneur, fais à notre ennemi comme tu as fait à cet homme-là. Il rappelle une histoire du passé où ce qu'il demande, la délivrance. Ça s'est passé évidemment dans une géographie qui est mentionnée dans ce psaume-là, près du torrent de Kisson et près de Endor. Et fais de lui du fumier pour le sol. Hein? Vous n'osez pas souvent faire une prière comme ça, hein? Seigneur, fais du fumier de mon voisin qui me donne de la misère. Peut-être vous auriez des doutes sur la spiritualité dans votre vie, n'est-ce pas? Hein? Fais du fumier avec celui qui me donne de la misère, ce membre de la famille ou quelqu'un au travail. Il faut que tu sois convaincu pour faire ce genre de prière-là. Et pourtant, dans l'histoire d'Israël, on voit dans les psaumes qu'il y a une place pour ce genre de prière, pour des ennemis, et de prier que le Seigneur fasse envers cet ennemi-là, comme il l'a fait avec d'autres ennemis dans le passé. Et sur la base d'une délivrance passée, il va faire une prière pour une situation maintenant et demander l'intervention de Dieu sur la base de la fidélité de Dieu dans le passé. Donc, c'est important. Et là, je vous ai mis ici une petite map de la chronologie du temps des juges, que je vais revenir dessus, mais qui vous donne une idée, justement, des personnages principaux. Et donc, il y a Othniel qu'on a passé tout droit et Éhud. Et on est rendu ici, donc, environ 150 ans, environ, après l'entrée en Israël avec Josué. Donc, nous, on s'en est pas rendu compte. On a sauté un chapitre et boum, il s'est passé à peu près 150 ans de différence, approximativement. Et là, on arrive à ce Jabin, roi des Cananéens, Hatsar. Puis là, on se dit, attends un petit peu, dans le livre des de Josué, on a parlé de ce roi-là au chapitre 11. Puis il avait été éliminé, me semble. Puis cette ville-là, me semble, avait été battue. Mais si on se rappelle qu'il y a 150 ans et qu'ils n'ont pas pris possession de tout le pays, on peut y comprendre facilement ici que, évidemment, les titres qui sont donnés souvent à des rois, un peu comme Pharaon, sont des titres souvent génériques pour le leader de cette ville-là, pour les rois qui est passé de père en fils. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le même personnage, c'est pas la même époque, et c'est la ville qui semble être ravivée, qui a repris des aises 150 ans plus tard, puisque c'est pas le même personnage, même s'il porte le même nom dans cette ville qui a pris vie, parce qu'évidemment, Israël a pas étendu ses cordages dans toutes les régions d'Israël, et même des victoires qu'ils ont eues dans le passé, bien ces villes-là ont pu être repeuplées, et ça ne veut pas dire qu'ils ont repeuplé ces villes par le nombre qu'ils étaient. Et on apprend rapidement ceci. Donc, vous avez une idée ici un peu de la période. Et si vous voulez avoir une idée de Esther, Ruth, elle se trouve à quelque part dans le siècle suivant. Donc, c'est parfois difficile de suivre. La chronologie n'est pas toute claire, mais on comprend par différentes informations chronologiques de Jephté et de d'autres personnages que la période des juges couvre un 300 ans globalement avant d'arriver finalement à Élie et Samuel. Maintenant, ce qu'on vient de lire, c'est assez simple. On apprend qu'il y a rébellion en Israël après qu'il y a eu un juge qui a amené une délivrance, qu'ils ont été en paix. Ils ont rechuté encore une fois. Une expression qui revient à répétition à travers les 7 cycles des juges qui nous sont racontés dans le livre. Et on apprend qu'ils ont une rétribution, c'est-à-dire qu'ils vont payer ils ont des conséquences. Et donc, le Seigneur les a vendus. Une expression qu'on trouve dure, c'est-à-dire qu'ils ont laissé entre les mains. C'était intentionnel. C'est des conséquences. C'est important pour nous de comprendre ici, ils vivent des conséquences de leur choix. C'est pas juste un oppresseur qui est venu, qui par hasard, c'était pas planifié, est arrivé, puis là, oups, il nous a dominés. Non, Dieu les a livrés entre les mains de ces gens-là, et c'était pour eux une punition pour les affliger de s'être tournés de Dieu, d'avoir commencé à adorer d'autres dieux. C'est pour punir leur rébellion qu'ils sont là. Et là, tout à coup, c'est important pour nous de voir ça, là. C'est pas juste des victimes, initialement. Ils vivent des conséquences de leur choix de mettre Dieu de côté. Et Dieu les livre comme il l'avait promis et qu'il avait instruit au tout début de cette période de temps-là. Et finalement, on entend qu'il y a une certaine repentance, un cri vers l'Éternel. Ils demandent de l'aide et le Seigneur les entend. Et vous savez, le cri qui est mentionné justement ici, au verset 3, si vous regardez attentivement, contrairement à d'autres endroits dans les chapitres précédents, où ce qu'on voit, c'est qu'ils ont crié vers l'Éternel, il les a délivrés, le mot ici utilisé pour crier est différent. Le mot est moins commun dans le livre des juges. C'est un cri comme celui, justement, qu'on retrouve lorsqu'on entend dans les premiers livres de la Bible, dans Genèse chapitre 4, on entend le sang d'Abel crier vers l'Éternel. On dit cela au chapitre 4, verset 10. C'est-à-dire, un sang innocent crie pour l'injustice qu'il a vécue. Et le mot qui est là est un mot particulier pour pas parler juste d'un cri de même. Parce que dans la Bible, vous savez, en hébreu, on a les cris de joie pour une célébration, pour une fête. Quelqu'un peut crier à l'aide, mais quelqu'un d'autre peut crier à l'aide, puis c'est pas le même cri. Un peu comme nos enfants quand ils crient. Les femmes, souvent, ont une plus grande acuité sonore sur le cri de leurs enfants. Hein. Ils savent quand c'est un cri de caprice. Arrêtez de me chicaner. Ils savent quand c'est un cri là, de mort, puis tu dis, OK, ça y est, son bras a été coupé. C'est la panique totale. Tu sais, là. Tu sais aussi quand c'est comme, bon, la dramaturge ici. Tu sais. Et là, ici, il y a ce cri, ou le cri de détresse, le j'ai faim, là, tu sais, là, ou bien c'est juste parce que j'ai fait dans ma couche, puis là, je suis pas confortable. On distingue ces cris-là, n'est-ce pas? Et l'Éternel distingue ces cris-là, et il y a des mots différents dans l'Ancien Testament pour distinguer ce genre de cris-là. Et celui-ci, c'est le cri de quelqu'un qui vit de l'oppression injuste. Parce que le mot est attaché à la justice. Il y a même des jeux de mots parfois qui ont été faits dans les textes de l'Ancien Testament, dans la poésie. Et c'est un cri où, à ce point-ci, il avait été vendu, mais là, il vivait de l'abus de la part de l'oppresseur à qui ils avaient été livrés. Et là, on l'a traversé la ligne. C'est-à-dire que Dieu a laissé un homme être en charge et les dominer, leur donner de la misère, mais il abusait de son pouvoir. Il les persécutait. Et là, maintenant, le cri que le Seigneur entend, c'est celui de gens qui vivent l'injustice, dont on vole la nourriture. On va voir d'autres situations plus tard, comme Gédéon, où les gens cachaient leur nourriture parce qu'il y avait des raids et on leur volait la nourriture, ce qui les empêchait de survivre pendant l'hiver et ça les rendait dépendants, de devoir l'acheter ailleurs, etc. Ça les rendait extrêmement vulnérables. Et le Seigneur entend le cri de détresse lorsqu'on vit de l'injustice. Ça ne passe pas inaperçu. Le Seigneur a une oreille beaucoup plus précise que celui d'une maman attentionnée. Très précis. Et on le voit ici. Et là, on va lire finalement, dans les versets suivants, la restauration, c'est-à-dire le grand combat qui va amener une libération, cette femme qui est choisie, cet homme qui est choisi, le combat qu'ils vont mener. Il y a un cantique de célébration après ça, et boum, à la fin du chapitre 5, on apprend qu'il y a un repos de 20 ans, si je ne me trompe pas par cœur, là, c'est maintenant 20 ans de repos qui va suivre sous la direction de cet homme et cette femme que Dieu a choisi. Donc, vous avez là ici les grandes lignes du résumé de ce que nous avons devant nous ce matin. Maintenant, remarquez bien ceci. Aussi, je vous donne un petit portrait de la géographie avant d'aller plus loin. Alors, je vous ai déjà montré des photos de cette région-là. Ici, ce qu'on appelle la vallée de Jisréel, ou ce qu'il y aurait à la fin des temps, la bataille d'Armageddon. C'est cet endroit-là ici. Si vous rappelez, on est en Galilée. Nazareth se trouve environ juste ici, dans ces montagnes-là. On a le mont Tabor, la Transfiguration. Je vous ai montré des photos ici de toute cette région-là ici au complet, qui est très populaire, qu'on visite en général. Et l'oppresseur Hatsor est dans le nord, en haut ici, et son dirigeant de l'armée est dans cette région aussi, donc assez loin l'un de l'autre, on peut estimer peut-être un 50 à 70 kilomètres qui est là, et c'est dans cette vallée-là que va se passer justement les événements de combat dans cette région-là ici, entre les deux, où ce que Nephtali et Zabulon demeurent. Il y a des grandes vallées, il y a une montagne de Tabor qui rend vulnérable n'importe qui fait le combat-là, tout dépendant de ta position, et c'est là que va se passer les combats de ce qu'on va lire aujourd'hui. Maintenant, la première chose à remarquer, c'est ceci. Il y a un problème de cœur. Les gens ont suivi un leader auparavant. Il y a eu une réforme extérieure. Le Seigneur était bon, il a donné un leader qui les a libérés de Moab, qui était au-dessus de eux, et c'était Éhud qui avait été utilisé. Mais ce qu'on constate rapidement, c'est que la réformation était extérieure, mais pas en profondeur. Et finalement, il rechute continuellement, il tombe dans de la religiosité, parce qu'il ne vivait pas finalement une régénération, un changement de cœur réel. C'était le comportement, il vivait de la paix, il était reconnaissant pour un temps, il y avait un retour vers Dieu, mais finalement, rapidement, cette première génération ou la suivante s'écartait de Dieu, et on voit qu'il manquait de profondeur dans ces changements et ces réveils ponctuels qu'il y avait. Et donc, un retour finalement au péché du passé. Et là, on a vu l'ennemi qui a été donné, je l'ai déjà décrit, alors je passe rapidement ces informations. Et finalement, on apprend qu'il y a cette femme, une femme qui se tient dans la brèche. Et là, tout de suite, notre attention est piquée parce qu'on nous dit que cette femme est une prophétesse. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que c'est des déclarations de prophétesse. On en a très peu dans l'Ancien Testament, 6 en fait mentionnées. Et c'est la deuxième, l'autre auparavant, tout comme elle, qui écrit un cantique un cantique inspiré. Myriam, si vous vous rappelez, hein, la sœur de Moïse, écrit un cantique inspiré après au chapitre 15 de Exode, et elle aussi va avoir le titre à ce moment-là d'avoir composé ce chant rempli du Saint-Esprit qui va amener Israël à fêter Dieu et ses exploits. A reçu le même titre aussi de prophétesse. Est-ce que c'est lié à cette composition de chant? Le fait aussi qu'elle reçoit une parole de l'Éternel qu'elle va donner à Balak. Alors, on comprend ici que son titre de prophétesse n'est pas anodin dans le contexte, lorsqu'on voit cette composition, ces paroles qui sont gardées, et que cette femme va porter de la part de l'Éternel, dans cette période de chaos, le message de Dieu à cet homme pour l'appeler à l'action. Et remarquez ici, c'est assez particulier, c'est une femme qui va aller porter le message à cet homme de l'Éternel. Tout comme aussi Dieu a choisi à sa résurrection, ce n'était pas un de ses disciples qui était témoin, qui a vu Jésus ressusciter au tout début. Ce sont un groupe de femmes à qui Dieu a confié de porter le message. Et quand ils ont porté le message, qu'est-ce que les hommes ont répondu? Incrédulité. Hein? Il fallait qu'ils vérifient eux-mêmes. Et cette femme-là va apporter le message. Il va dire, ah ben, c'est correct, mais il faut que tu viennes avec moi. Il faut que j'aie une bouée d'assurance. Là. La prophétesse qui m'amène la parole, elle va venir avec moi. Puis s'il y a un problème, elle va pouvoir m'orienter rapidement. Puis là, elle lui dit, ben là, la gloire va aller à une femme. Et on se dit que c'est sûrement elle, cette femme. Donc, une prophétesse, et déjà, ça attire notre attention. Cet homme qui n'ose pas se lever si la femme ne va pas l'accompagner pour relever ce défi-là. Elle lui donne pourtant toute l'information que c'est Dieu qui va agir. Si c'est pas lui qui doit être performant, c'est pas lui qui doit avoir des armes particulières, une stratégie particulière, elle lui dit mot pour mot quoi faire, où se présenter, qu'est-ce que Dieu va faire sans donner de détails, et qu'il a juste à aller là, ramasser les 10 000, mais il faut comprendre ici, 10 000 devant une armée de 900 chars de métal, quand on sait aussi qu'il manquait au niveau de la technologie, donc il y avait très peu d'armes en Israël, et elle va le souligner dans le chapitre précédent, c'est pas 10 000 personnes qui allaient intimider 900 chars de métal. Mais voilà, tu vas attirer leur attention, ils vont sortir de leur lieu, et moi, je vais m'occuper de les amener à un endroit vulnérable, puis ça va se passer comme je le dis. C'est pas lié à sa performance, c'est lié à Dieu qui dit, va à un endroit, fais ce que je te dis, je vais m'occuper de ça, puis je vais m'occuper de ça. Et pourtant, il faut qu'ils traînent Déborah pour le rassurer. Barak, qui veut dire éclair ou foudre. Et c'est intéressant, on dit que Déborah était l'épouse de Lapidote. C'est un nom bizarre, c'est un nom qui est un pluriel à la fin, c'est un pluriel féminin. Il n'y a personne qui se nomme comme ça dans l'Ancien Testament, c'est la seule fois qu'on voit ça. Et le mot veut dire simplement torche. Vous vous rappelez quand ils ont amené des torches avec Gédéon, hein? Des torches de feu? Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est torche, mais des torches au pluriel, mais au féminin. Alors certains ont dit, ben, c'est peut-être... Tout simplement qu'elle est l'épouse de la torche, de la lumière. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'elle a un époux comme tel, puis peut-être qu'il y a un jeu de mots ici. C'est possible, c'est un peu embêtant dans un texte aussi ancien. On connaît pas ce nom-là. C'est vrai qu'il y a des petites choses un peu embêtantes, mais certains ont supposé cela. Possible, et Barak, lui, veut dire éclair. Alors, c'est abeille puis éclair. Est-ce que abeille va amener un éclair ou va piquer avec à travers éclair? Je sais pas. Il y a des jeux de mots qui sont un peu embêtants et que des fois, les Hébreux vont porter attention et qui peuvent être intentionnels comme tout simplement anodins. C'est un peu embêtant tout ça, mais ça fait couler bien de l'encre des commentateurs qui commentent ces textes. Mais peu importe, abeille ici va travailler avec Barak, la foudre, et ils vont aller ensemble finalement sur le terrain et faire ce que Dieu a demandé. Il y a un auteur qui écrit ceci, puis je ne saurais pas le mieux le dire, fait que je vais vous lire tout simplement. Alors que le ministère institutionnel de l'Ancien Testament, notamment celui des prêtres, par exemple, appartenait aux hommes, lorsque Dieu veut faire irruption dans l'arrangement institutionnel régulier, la prophétie est l'un des moyens par lesquels il le fait. Et les femmes sont parfois les personnes par lesquelles Dieu parle alors. Ainsi, abeille, en voulant voir ce jeu de mots que cet auteur fait, peut être une quatrième exemple d'un sauveur improbable. On voit un gaucher dans le chapitre précédent, un fermier, Othniel, un descendant qui s'est allié avec, qui vient de la tribu de Juda. Dieu travaille à l'encontre des attentes et des catégories humaines. Et ça, c'est vraiment important. Combien de fois Dieu, dans l'Ancien Testament, avec les descendants, va choisir le deuxième, pas celui qu'on aurait pensé. Que le Seigneur ne va pas suivre une ligne linéaire selon les standards et les coutumes humaines. Il va régulièrement briser les schémas, les cultures locales, pour montrer que ses plans et la direction qu'il prend ne dépendent pas de notre culture. Il fait des choses improbables, de directions qu'on ne serait pas attendues. Et attention à nous, qu'il faut que ça se passe comme moi je veux, comme moi je pense. Et que parfois Dieu nous parle, il nous amène quelqu'un pour nous aider qu'on n'aurait jamais pensé faire, avoir comme situation. Dieu n'est pas prévisible. Sinon, on se confierait dans sa prévisibilité. Ah, il fait toujours ça comme ça dans telle situation, il n'y aurait plus de foi. Dieu fait les choses jamais deux fois de la même façon. Et donc, attention à ce défi-là. Maintenant, le caractère de cette femme est fort intéressant. Les caractères de Déborah, une femme de Dieu. Et laissez-moi parler un peu plus d'elle, de ce qu'on voit dans ce chapitre et de ce qu'on voit dans sa poésie qu'elle écrit. Je pense que c'est important de s'arrêter à son rôle, mais son caractère aussi en particulier. C'est une femme de compassion. Elle s'est levée pour prendre à cœur la cause de son peuple et prendre soin comme une mère. Si vous regardez au chapitre 5, verset 7, elle dit « Je me suis levée comme une mère en Israël, comme une maman. » Une femme de compassion qui voit la détresse de son peuple et que Dieu lui a donné d'amener une parole à Barak, elle l'amène, puis Barak dit « J'ai besoin de ton aide avec moi. » OK, moi y être. Pourquoi? Parce qu'elle aime son peuple. Elle a compassion pour son peuple et elle transmet la parole de Dieu. Elle n'hésite pas à dire oui à Barak pour l'accompagner, même si cela n'était pas inclus dans le message que Dieu lui avait donné à cet homme-là d'y aller. Elle accepte. Disponible. C'est une femme aussi de leadership. Dans son rôle de juge, qui était important. Elle ne s'impose pas. Les gens viennent à elle à un endroit où ce qu'elle s'est installée entre telle ville et ils viennent la voir pour juger. Il semble qu'ils montent vers elle pour prendre des conseils pour des situations de litige. Chose qu'on voit pas nécessairement dans les autres juges. Ils sont nommés juges, mais sans qu'on les voit exercer un ministère de justice conventionnel. On va dire que les gens viennent voir pour consulter, prendre des décisions entre deux parties en tension. Elle est là à un endroit. Les gens viennent vers elle. Elle ne s'impose pas. Fort intéressant. Elle désire la volonté de Dieu de voir un homme prendre la tête du peuple d'Israël comme Dieu l'a demandé, comme libérateur pour libérer de l'oppresseur Sisera. Elle n'a pas hésité d'encourager Barak par sa présence, qui était motivant pour lui. Même si à la base, Barak n'aurait pas dû avoir besoin de cela, il y avait suffisamment par la parole de Dieu. Elle était humble. Elle prend la direction parce que l'homme ne veut pas faire ce qu'il doit sans elle. Sinon, il dit, j'y vais pas. Bon, ben, je vais y aller avec toi. C'est ça qu'il faut. Elle était habile en littérature, capable de composer des cantiques de témoignages pour louanger Dieu et amener le peuple à remercier Dieu, à ne pas oublier ses hauts faits par cette poésie très chargée d'images pour que le peuple se rappelle cette victoire et louange Dieu. Elle est engagée spirituellement pour la cause de l'Éternel et avait la foi en sa puissance. D'où le fait qu'elle n'a pas hésité d'aller là. Elle avait donné la parole, mais elle croyait dans cette parole-là. Et donc, elle était prête à accompagner l'homme qui était là. Et c'est intéressant. La Bible, par contre, va quand même, dans le Nouveau Testament, tout comme aussi dans une autre référence dans le livre de Samuel, va mentionner Barak. Ce n'est pas Déborah qui va être nommée. Ah, certains pourraient dire, ah, c'est macho. On sait bien, hein, la Bible est macho, c'est toujours les hommes. Attendez, vous allez voir comment les femmes dans le livre des juges sont des joueurs plus que clés dans quelques instants, parce qu'ils sont nombreuses. À jouer un rôle, pas de second plan, de premier plan dans toute l'histoire des juges. Et le livre aux Hébreux, on va le lire tantôt, mentionne Barak comme ayant quand même exercé la foi malgré tout ici. Il a quand même été. Mais la gloire ne lui reviendra pas à la fin de l'histoire quand même. Bien des choses pourraient être dites, mais je ne veux pas trop m'éparpiller. Mais je notais encore une fois quand même ici quelque chose. Je dois souligner quand même qu'encore une fois, c'est une femme qui vient appuyer un homme qui n'était pas prêt à faire le pas de foi. Et là, mon but, ce n'est pas de faire des reproches, mais je le constate. Quel défi de foi pour nous, les hommes, d'avancer par la foi. Souvent, une femme doit venir derrière nous, nous pousser pour exercer cette foi-là. Quel défi de marcher en avant. Puis que Dieu le dit, ben je le fais. Quelle admiration on a pour des hommes comme les cinq hommes qui, dans les années 50, sont allés dans les jungles de l'Équateur et qui ont été assassinés par les gens qu'ils essayaient d'évangéliser. Madame Elliott, son mari, et tout un groupe d'hommes. Et là, on est inspiré par ces hommes qui sont allés dans la jungle. Ils ont laissé leur vie. Mais vous savez ce qui est arrivé après? Ces femmes qui avaient perdu leur mari ont eu encore une plus grande audace que leur mari. Deux d'entre elles, 2 ans plus tard, cheminaient pour aller vivre dans cette même tribu qui avait assassiné leur mari et ont vécu dans cette tribu avec leur enfant et leur emporté l'Évangile. Ils se sont convertis. Et même des hommes qui avaient tué leur mari se sont convertis et sont devenus des amis intimes de la famille. Oui, il y avait des hommes qui se sont levés, qui ont été prêts à mourir, mais ils ont eu des femmes qui ont été encore plus loin dans leur audace d'aller dans la tribu qui avait assassiné leur mari pour les évangéliser, avec un cœur missionnaire, croyant que Dieu les avait amenés à faire cela par la foi et que Dieu amènerait une moisson qui ne leur appartenait pas, mais appartenait à Dieu. Des femmes inspirantes. Et vous savez, combien de pays ont eu des femmes missionnaires avant des hommes? Et que des églises ont été instaurées, pas par des femmes qui avaient un trip de pouvoir, qui voulaient être au contrôle de cette église. Non, non, qui ont dit, nous, on va amener la parole, qu'il y ait un homme ou pas, on va y aller. Et c'était dans la, vous savez, dans la mission des années 1800, des femmes qui partaient seules. Oh boy! C'était pas facile, cela. En Angleterre, les premières femmes qui sont parties dans des équipes qui acceptaient d'avoir des femmes célibataires, c'était révolutionnaire, imaginez. Parce qu'on faisait pas ça. Et combien de femmes sont parties et ont eu un impact incroyable. Et que des églises ont été instaurées, qu'ils ont formé ces hommes-là pour prendre la relève et sont allés ailleurs. Et que des femmes sont les personnes qu'on se rappelle dans un pays comme celle qui a amené l'Évangile la première. Parce qu'il manquait d'hommes pour aller. Et les femmes n'ont pas à attendre si les hommes ne veulent pas se lever. Mais quel travail d'équipe, de respect, quel défi dans une société où ce qu'il y a une tension, non seulement sur nos genres, de les comprendre, de les accepter, mais entre les genres traditionnels connus et non la multitude ajoutée au palmarès des genres. Ce défi homme-femme et qu'on voit ici dans cette dynamique intéressante et qui va se poursuivre, ça ne s'arrêtera pas là. Et on va continuer à lire parce que sinon on ne pourra pas terminer. Alors, je vous amène à lire dans les prochains versets. Donc, une femme qui se tient dans la brèche. Merci Seigneur pour ces femmes de foi qui se tient dans la brèche. Et là, on a mentionné Hébert. On va comprendre un peu plus pourquoi. Là, maintenant, il y a une autre femme. C'est pas assez d'une femme dans cette histoire-là pour amener un fait saillant important. Il y a une autre femme qui, elle, prend le marteau quand il faut. Disons merci Seigneur pour les femmes qui prennent le marteau quand il faut. Amen. Regardons ce que ça fait une femme qui prend le marteau quand il faut. Faites-vous-en pas, vous ne serez pas tout à appeler à faire la même chose qu'elle, OK? On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé vers le mont Tabor, donc le mont de la Transfiguration, un mont qui monte en pic assez vulnérable, assez particulier comme géographie. Et depuis Hatcher-Goyim, Sisera rassemblant vers le torrent de Kisson. Rappelez-vous, il a mentionné ce torrent-là. Il y a un jeu important, là, ce torrent-là. Il y a un petit ruisseau, où on ne sait pas quelle grosseur qui est là, qui va jouer un élément clé dans l'histoire. Et tous ces chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, à part des chars. Et Déborah dit à Barak, « Lève-toi ! Car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. » C'est pas toi qui vas le livrer, c'est l'Éternel qui le livre. L'Éternel marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor. Donc, il s'installe à mont Tabor et il descend. Normalement, tu laisses les autres venir vers toi. Right? T'es sur une montagne, t'es protégé. Puis si vous avez vu le mont Tabor, c'est assez escarpé. Fait que tu veux juste que, venez nous voir, le roi de la montagne, là, puis leur tirer dessus en bas avec des flèches ou quelque chose, parce que là, t'es en position d'avantage, n'est-ce pas? Tu descends pas une colline pour rencontrer ton adversaire en bas. Tu le laisses monter vers toi. Ils font le contraire. Stratégiquement, là, il y a 900 chars qui vont essayer de les entourer, parce que c'est une montagne assez définie, on peut faire le tour. Encore aujourd'hui, en taxi, là, c'est facile de faire le tour, puis il y a des taxis spécialisés pour t'amener jusqu'en haut, parce que c'est tellement escarpé et c'est tellement populaire comme endroit à aller voir. Donc, c'est un peu particulier. L'Éternel, au verset 15, « mis en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. » Sisera descendit de son char, ça va pas bien, là. T'as 900 chars, tu descends de ton char, ça va pas bien. Tu restes dans ton char quand t'as un paquet de chars. Tu sors pas de ton char stratégiquement, là. Et il s'enfuit à pied. On nous dit rien de ce qui se passe. On sait juste que ça va pas bien. Puis que le gars qui menait tout ça, il est en train de s'enfuir à pied, puis il est tout seul, puis il a plus de char. Le détail nous vient un peu plus loin. Dans le cantique, l'autre côté. Avant d'aller plus loin, on va aller voir dans le cantique. Regardez le chapitre suivant. Je pense que je l'ai pris dans mes notes, là, juste pour pas le chercher. Alors, verset 19. Les rois vinrent et ils combattirent. Alors combattit les rois de Canaan à Tanakh, aux eaux de Megiddo. Donc, on voit que le combat s'est répandu assez largement dans cette vallée-là. Et ils ne se rompèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé ici, qu'elle met en poésie hébraïque. Le torrent de Kisson les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kisson. Mon âme foule aux pieds les héros, alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la géographie, il y a quelque chose de miraculeux, clairement, de l'Éternel, mais l'histoire met pas l'accent là-dessus. C'est dans la poésie qu'il va sortir un peu ces détails-là de louange à Dieu pour son intervention. Tout ce que le texte a à dire, c'est que Dieu est intervenu, puis c'était pas à cause qu'il était beau, qu'il était fort, qu'il était flamboyant, qu'il avait une grosse stratégie militaire. Ils ont juste obéi à Dieu, puis c'est tout ce qui est important dans l'histoire. Vous me suivez? Le détail, ça pourrait nous distraire, c'est comme il s'en tient à l'essentiel. Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce qu'il venait juste de le dire qu'il allait le faire. Puis quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. C'est pour ça qu'on a la foi. Parce que Dieu parle pas pour rien. Il nous dit pas de faire quelque chose pour le fun. Il veut nous amener plus loin, nous faire participer à son royaume. Et à nous de répondre par la foi. Quel défi, malgré tout. Parce que tu veux pas descendre du mont Tabor devant 900 chars. C'est pas raisonnable. Et c'est pas stratégiquement intelligent. Vous verrez pas les Ukrainiens faire ça. Parce que ça serait du suicide. Pourtant, Dieu utilise des stratégies suicidaires. C'est pas beau, ça? C'est pour ça que ça demande de la foi. Parce qu'il veut être sûr qu'au bout du compte, on comprenne bien ceci. C'est moi qui donne la délivrance. C'est pas toi. C'est pour ça que Gédéon va se ramasser avec 300 hommes. Il y en avait 30 quelques mille. Non, il y en a trop. Dégraisse. Il y en a 10 000. Ah, il y en a trop. Dégraisse. OK, mais là, il en reste 300. Parfait. Justement, là, c'est impossible. Là, we're in business. On peut avancer. Quand tout à coup, c'est devenu impossible, Dieu a de la place. Tant qu'on peut utiliser nos stratégies, qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on a les moyens d'y arriver, c'est juste humain. Vous avez remarqué ça dans votre vie? Et c'est quand que c'est devenu impossible qu'on prie plus. Tant qu'on s'arrange tout seul, on n'est pas porté à être à genoux, là. Je suis capable de m'arranger, j'ai mon monde, je sais qui appeler, tel problème, j'ai ça, que je règle comme ça, puis telle stratégie. Mais quand j'ai plus rien, là, je tombe à genoux. Et là, Dieu a de la place. Tant que je peux m'arranger, Dieu n'a pas de place. On est comme ça. Tant que tu ne seras pas au bout du rouleau, tant que tu vas être encore capable de t'arranger, tu vas t'arranger. Dieu aura de la place quand tu vas être au bout du rouleau. À moins que tu te mettes tout de suite au bout du rouleau et ne t'attendes pas à genoux. OK, je capitule, là, je ne m'en rendrai pas jusqu'au bout. Je vais me mettre tout de suite à genoux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Barak poursuivit les chars, l'armée, jusqu'à la ville, dans le fond, où ce que Sisera se trouvait. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, toute, sans qu'il y ait resté un seul homme. Wow! Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Alors là, on a Sisera ici, qui est le personnage central. Et là, tout à coup, il y a Jaël qui nous apparaît ici. La femme d'Hébert. Ah, OK, le gars au verset 11, pas rapport qu'on a parlé. Finalement, il y avait rapport. C'était pas juste quelqu'un qui est allé donner une information, pas rapport généalogique, là, qui tripait ses généalogies, puis qui est parti dans le champ avec son idée là, de mettre les... Non, il y a un lien. C'est la femme d'Hébert, le Kénien, car il avait paix entre Jabin, roi de Hatsar, et la maison de Hébert. Déjà, ça attire notre attention. C'est pour ça qu'ils se sentent bien d'aller dans cette région-là. Puis là, ça devait faire une tension, j'imagine. Eux autres sont liés avec la famille de Moïse. Puis là, il y en a d'autres Kéniens qui sont ailleurs. Est-ce que, parce qu'eux autres étaient dans cette région-là, ils avaient fait la paix, puis ça mettait les autres en tabarouette contre eux autres? Parce que là, t'es pas supposé être en paix avec eux autres, puis il y en a d'autres qui étaient pas d'accord. Il y a quelque chose, certainement, qui est là. Puis le monsieur, il est pas là, mais la madame est là. Jaël sortit devant Sisera. Elle lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Elle entra chez elle, il entra chez elle dans la tente et elle le coucha sous une couverture. Et là, dans le langage qui est utilisé ici, là, les rabbins ont rajouté qu'il y avait peut-être quelque chose de sexuel, qu'il y avait peut-être eu des rapports sexuels. Puis les rabbins ont vu bien des affaires. Je vous avoue que c'est dur dans la lecture là, de les chercher puis gratter ça. Là. C'est forcé pas mal les affaires. OK? Et il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit un outre de lait plutôt que de l'eau, du lait chaud qui calme, lui donna à boire et le couvrit encore une deuxième fois. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient t'interroger, il dit, s'il y a quelqu'un, tu lui diras, non, il n'y a personne. » Et là, on lit au verset 21, « Jaël, la femme de Hébert, saisit un pieu de la tente. » Vous vous préparez, là. Hein? Parce que, rappelez-vous, c'est une bédouine. Donc, c'est une femme qui est habituée de tenter des tentes, qui est habituée d'utiliser le marteau pour rentrer des pics dans le sol, installer les tentes. C'est des gens souvent qui ont été nomades. Elle, sa job, c'est ça. Elle est habituée à tout qu'un bras, là. Tout qu'un bras, là. Elle prit dans la main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Et comme Barak poursuivait Sisera, elle sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et il entra chez elle et vit Sisera qui était étendu mort à terre, le pieu dans la tempe. C'est intéressant comme histoire, hein? Il y en a qui font comme « Oh! » Il y en a d'autres qui font « Rah! Yeah! » On distingue les violents des peacemakers ici. Hein? Évidemment, toute une histoire et toute une action. Et c'est intéressant, ce grand guerrier-là va finalement aller se cacher sous la jupe d'une femme. Hein? Il est allé se cacher sous la jupe d'une femme qui était sous une tente. Et finalement, il va se faire avoir dans tout ça. Et finalement, peut-être la madame portait plus le pantalon qu'il pensait, finalement. Hein? Et c'est intéressant... Le mot utilisé pour enfoncer, c'est pour placer en réalité. Le mot, il est comme placé en quelque sorte. C'est le même mot utilisé dans une autre relation entre un autre homme et une femme. Au chapitre 16, la seule autre femme dans le livre dont on a le nom qui s'appelle Dalila, il y a une Dalila qui a aussi fixé des cordes autour des mains d'un grand guerrier qui s'appelle Samson. C'est les deux seules femmes qui portent le nom. Et c'est seulement ces deux endroits-là que le verbe est utilisé pour parler. Elle a fixé les choses. Et on remarque dans les deux cas deux hommes assez naïfs, là, qui étaient vulnérables et qui se sont fait avoir. Deux hommes dont on a fixé quelque chose sur eux pour leur perte. Deux hommes naïfs. Merci Seigneur, quand je lisais ça, je me disais, merci Seigneur que quelqu'un qui lui, là, contrairement à ces deux hommes-là naïfs qui se sont fait planter royalement, dans leur naïveté, dans leur relation questionnable, on a Jésus, lui, qui a accepté d'être cloué à la croix volontairement. Quel contraste. Deux hommes cloués dans leur situation naïvement, vulnérablement. Notre Sauveur, lui, vient, puis lui a été cloué volontairement pour nous. C'est ça que je pensais quand je regardais ça comme contraste. Que c'est réconfortant entre la naïveté puis la volonté de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Je vous lis ceci. Un auteur l'a si bien écrit, je vais le lire tout simplement. Jaël était aussi une femme dure, un peu sur le modèle d'Éhude. Son mari, lui aussi, était absent de l'histoire et ce fait contribue peut-être à la mort de Sisera. Il avait des raisons de penser qu'il sera en sécurité dans le campement d'Héber avec qui il y a la paix, qu'il y a une alliance. Mais Héber et Jaël étaient évidemment apparentés avec Moïse. Et il y avait un inconfort, certainement. En absence d'Héber, Jaël ne se sent pas obligé de donner la priorité de la politique familiale face à cet oppresseur d'Israël. Et elle sait comment utiliser dans cette situation-là sa féminité pour le mettre en confiance, vulnérable. Elle accueille le guerrier épuisé dans sa tente, le nourrit, le berce et lui confie et finalement enfonce un piquet dans sa tente, dans sa temple, dans son crâne. Le résultat est que la gloire de la victoire vient pas à Déborah, mais vient à une femme qui s'appelle Jaël. Ce n'est pas Éclair qui va avoir la gloire, Barak, mais une femme, Jaël. Encore une fois, le nom de Barak ici est un peu ironique et clair, mais c'est pas lui qui va finalement régler la situation. Ça va être à travers Abeille et à travers Jaël que va venir la victoire et l'intervention de Dieu, évidemment, à travers tout ça. Et remarquez bien au verset 23-24, on termine là-dessus. En ce jour, Dieu humilia, vous voyez, Dieu a agi à travers Déborah. Dieu a agi à travers les miracles de la victoire. Dieu a agi à travers la stratégie. Dieu a agi en utilisant cette femme pour être le dernier clou de la tombe pour cette victoire. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, mais là, on ne l'a pas entendu, lui, il n'était pas dans le combat devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantissait de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi. Donc, c'était un début, ce combat-là, de plusieurs autres qui vont amener l'élimination de cet homme-là et de son oppression sur Israël. Il a été abaissé. Vous rappelez ce que la Bible a dit? Attention à celui qui est élevé, il sera abaissé. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Le Seigneur prend plaisir, vous savez, à abaisser les grands de ce monde qui dominent, qui écrasent. Ah, peut-être ça paraît pas tout de suite, mais il vient un moment où ça va arriver. Et cet homme-là a été abaissé dans son orgueil, dans sa domination excessive envers Israël. Remarquez bien les autres femmes. Alors, la victoire est finalement le cantique qui va venir et un temps de repos. Remarquez bien les femmes dans le livre de Juges. Et je vais terminer avec ça avant de conclure cette observation-là. Il y a Déborah qui est là. Il y a Jaël qui tue Sisera. Ensuite, il y a une femme aussi qui va tuer un roi, ou en tout cas un wannabe roi, Abimélec, et qui va y envoyer une roue sur la tête des hauteurs. Parce que dans sa stratégie militaire, il avait été nono, il s'est approché des murs d'une tour, puis évidemment, tu fais pas ça, parce qu'on peut te lancer des affaires sur la tête. T'sais. C'est un principe de guerre assez de base. Il l'a pas respecté, et là, il va demander à quelqu'un de le tuer pour pas que ça soit une femme, finalement, parce qu'il est blessé, qu'il l'ait tué. Hein, parce que 3000 ans plus tard, on raconte que c'est une femme qui l'a tué. Et ça va être un fait important, puisque ça va arrêter cet homme-là dans son excès, un descendant de Gédéon. L'ange de l'Éternel va apparaître à une femme stérile pour lui annoncer qu'elle enfantera un fils. Puis à son époux, un peu comme dans l'histoire de Jésus, c'est à une femme qui va apparaître la mère de Samson, pas à l'homme. L'homme va faire une demande après ça, puis l'ange va lui apparaître. Mais c'est à une femme en premier qui vivait cette détresse-là d'être stérile. Et qui va être une intrigue importante, un chapitre complet consacré à la naissance de Samson, cette femme qui est là. Samson épouse aussi une Philistine de Timna pour amener toute une autre intrigue, une femme qui aurait dû pas épouser, et ça va être finalement toute une histoire pas d'allure. Puis on voit qu'il va avoir une femme de Gaza, une prostituée, et finalement, il y a la fameuse Dalila. Il y a des problèmes avec les femmes, c'est évident, là, notre Samson, là, il gère mal ses pulsions sexuelles, ses désirs, ses yeux, et ça le met dans le trouble, mais c'est une femme dont on a le nom, comme Jaël, qui va, finalement, amener sa mort. En tout cas, le début de sa mort, qui va amener la trahison, le rentrer en confiance, comme Jaël avec Sisera. Aussi, c'est une femme lévite autour duquel on va avoir toute une histoire qui se passe, une femme de Bethléem, qui va se passer, une histoire de chaos. Je vous raconte pas l'histoire, c'est trop choquant pour l'instant, fait que je veux pas en parler, mais il y a une femme autour duquel toute l'histoire va tourner dans une de ces grosses histoires de la fin. Et qui va vivre des sévices terribles. Il y a des femmes aussi qui vont être choisies à la fin, parce que là, ils ont éliminé une tribu pratiquement au complet. Il reste 600 hommes. Il manque des femmes. Puis ils ont fait une alliance. Ils peuvent pas donner leurs femmes au fils de Benjamin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver un endroit où il y a 400 femmes vierges pour voir le nombre de femmes suffisant pour qu'une tribu d'Israël puisse continuer à vivre. Benjamin existe à l'époque du roi David, du roi Saül, à cause de cette démarche-là dans le dernier chapitre particulier. Personne ne dit que c'était l'idée la plus championne, mais c'était le chaos de l'époque. Et finalement, Dieu merci, bien que le livre des juges se termine là, l'époque des juges n'est pas terminée. Et il y a une autre femme duquel on parle, qu'on donne son nom. Et elle s'appelle Ruth et sa belle-mère Naomi. Vous voyez? Les femmes dans l'époque des juges sont vraiment importantes et ils ont des contributions clés dans l'échec de certains hommes et dans la réussite de certains hommes. Que dirais-je encore, dit Hébreux chapitre 11. Le temps manque, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu. Et c'est ce que l'auteur, si vous nous rappelez, par la foi, ils ont eu la victoire. C'est pas par leurs moyens. C'est par la foi que tu auras la victoire dans ta vie. Pas par tes stratégies, pas par ton intelligence, pas par le nombre de personnes, de règles que tu mets autour de toi dans ta vie pour te protéger ou de moyens. C'est par la foi que vont venir les victoires. Des royaumes exercer la justice, etc., etc., des maladies et tout cela. Quatre observations en terminant que j'aimerais vous lancer comme mise en pratique. Premièrement, le vrai problème du peuple, c'était un problème de cœur. Et j'aimerais nous poser la question ce matin, est-ce que nous aussi, on est dans les réformes extérieures ou est-ce qu'on est dans les enjeux de réformer, mais plutôt vivre une régénération de cœur. Réformer l'extérieur, c'est ce qu'Israël faisait continuellement, puis il retombait continuellement. Mais Seigneur, ce qu'il voulait pour eux autres, c'est un changement de cœur, une vraie repentance. Pas juste, OK, on va tasser les statues, mais finalement, c'était parce que j'étais écœuré des conséquences, parce que je trouvais ça dur, parce que finalement, c'est plus avantageux pour le moment, mais aussitôt que ça va mieux aller, on y revient. Il y avait beaucoup de tout ça en Israël, des changements religieux, mais pas en profondeur. Quel défi pour le cœur humain de faire la distinction entre les deux. Est-ce que je suis dans la réforme extérieure, toujours en train de juste vouloir changer mon comportement, changer les choses autour de moi, ou dans la recherche de la régénération, du changement de cœur que seulement Dieu peut apporter et qui, lui, amène un changement de comportement durable, récompensable de Dieu, parce que ce n'est pas juste mes efforts humains. Comme pour le peuple d'Israël, le Seigneur utilise parfois nos ennemis pour communiquer avec nous. Cependant, aucun péché commis ne restera impuni. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le Seigneur il peut permettre au travail, dans la famille, des situations où on vit des difficultés, puis que c'est vrai que parfois Dieu peut nous punir à travers ça. Et que peut-être le voisin qu'il utilise pour t'éprouver et que tu aimerais avoir la prière, « Seigneur, change-le en fumier pour le sol. » Peut-être tu veux plutôt dire, « Seigneur, c'est quoi tu veux me montrer là-dedans? C'est quoi l'attitude que tu cherches à confronter? » Avant de vouloir maudire mes ennemis, est-ce que mon ennemi est peut-être utilisé de Dieu pour une raison dans ma vie? Ça demande de l'humilité, c'est vrai, de se poser cette question-là. C'est pas évident à discerner. Puis on ne veut pas devenir non plus paranoïaque. Mais c'est vrai qu'on en est pécheur et que parfois, il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour corriger. Il ne veut pas du malheur. Il nous permet des épreuves pour corriger, pour faire sortir des bonnes choses, pour corriger des péchés dans notre vie, confronter des attitudes. Attention comment on traite notre adversaire. Mais rappelez-vous, s'il abuse, il y a un Dieu qui s'occupe de ceux qui abusent de l'autorité qu'il donne. Et tous les rois de l'Antiquité à qui Dieu a vendu Israël, ils ont payé pour leur abus après, pour l'excès d'autorité qu'ils ont usé sur eux, l'orgueil qu'ils se sont donné, prétendu d'être si forts, ne reconnaissant pas que le Créateur les avait confiés à eux pour une raison. Troisièmement, que ce soit 900 chars, 10 000 chars ou 200 000 soldats, Dieu n'est pas impressionné ou pris court. Dieu est tout-puissant, il a toutes les ressources à sa disposition. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de stratégie. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'en utilise pas. On voit Dieu avoir utilisé des stratégies dans l'Ancien Testament. Et s'il y avait une stratégie, il m'a utilisé le torrent, il m'a le faire déborder. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais tout leur avantage de char, ça va prendre le bord. Puis on se ramassait à pied. Et les 10 000 vont être suffisants pour y aller. Mais il fallait que Dieu sache où, quand qu'elle allait faire ça exactement. N'est-ce pas? C'est une stratégie, mais pas celle qu'un être humain aurait pensé, parce qu'il ne contrôle pas les torrents. Dieu contrôle les torrents, qu'il fait déborder quand lui le décide. Ça m'échappe complètement. Mais ce qu'il ne doit pas m'échapper, c'est que mon Dieu est créateur et qu'il est tout puissant et qu'il connaît tout et que tout lui est soumis. Et ça, c'est suffisant pour faire le pas de foi en avant puis de juste obéir. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te demande de faire telle affaire présentement. Tu as une relation à briser, à couper, ou une relation à confronter. Tu as un choix de travail embêtant. Tu as une situation avec un enfant. Tu comprends pas tout. Ça te fait peur. C'est normal. Tu dis, à cause de qui je suis, j'aimerais que tu prennes le pas de foi et que tu fasses ce que je te dis parce que je mérite ta confiance. Puis que tous les enjeux que tu ne contrôles pas, c'est correct, c'est parce que c'est moi qui les contrôle. Puis ça devrait être assez pour faire le pas de foi. Quel défi? Déborah a marché en avant. Et parce qu'elle a décidé d'y aller, elle a encouragé la foi d'un autre qui avait besoin d'un petit encouragement. Et des fois, on a besoin d'encourager les autres pour le faire. Et la dernière chose, Dieu ne cherche pas des femmes et des hommes capables. Dieu ne cherche pas des femmes de grand leadership et des hommes de grand leadership, des hommes ou des femmes bons ou forts, mais des gens simplement disposés à obéir à son appel. Dieu ne t'appelle pas à faire un pas de foi parce que tu es différent des autres. Il t'appelle à faire un pas de foi parce que tu es son enfant, qu'il te donne des dons, qu'il te donne un appel particulier. Il te donne de te tenir debout dans la brèche, pas en Ukraine sur le front, pas en Syrie pour sortir les cadavres présentement, de ces ruines, ici au Québec. Il t'invite à te tenir dans la brèche, ici au Québec, alors que le monde autour de nous périt sans Jésus. Alors que les gens ont rejeté toute forme de foi pour créer leur propre foi et qu'ils ont besoin de voir des croyants qui vont se lever pour Jésus, qui ne seront pas des éluberlus bizarres, qui vont être des gens de leur époque, qui osent se tenir pour Jésus avec humilité, avec sagesse, avec ce que Dieu a déposé dans notre vie, pas dans la vie de l'autre chrétien. Là. Oh, mais je ne suis pas bon comme lui. Dieu ne veut pas que tu sois bon comme lui ou comme elle. Il veut que tu sois comme toi, t'es. Puis il t'appelle à toi, ton pas de foi. Puis ce n'est pas le même que le voisin puis de la voisine chrétienne au bout de la rangée. Parce que tu n'es pas l'autre. Tout comme on ne demande pas la même chose à nos enfants qui ont différents appels, capacités, Dieu fait la même chose avec nous. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire ce matin? Par la foi, aller vaincre par la foi. Prions ensemble. À quoi m'appelles-tu, Seigneur, ce matin? Qui est le Barak, Seigneur, dans cette salle? Qui est la Déborah dans cette salle? Qui est cette foudre? Qui est cette abeille? Qui est cette Jaël que tu appelles, Seigneur, à faire un pas de foi avec ce que tu as mis dans sa vie? Seigneur, aide-nous à résister de se comparer aux autres. Aide-nous à résister ce matin de se donner des excuses encore une fois. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à arrêter de regarder à tous les problèmes que je peux évoquer pour rendre cette demande déraisonnable. C'est sûr qu'humainement, c'est déraisonnable. C'est pour ça que ça s'appelle un pas de foi. Un pas en avant, les yeux sur toi, pas sur ce qui est autour. Les yeux sur ce que tu as dit de faire. Les yeux sur Jésus qui a rendu tout cela possible parce que tu as dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin. Toute puissance m'a été donnée. » C'est pour ça que c'est possible de faire la grande mission, Seigneur. Donne-nous cette foi en ta présence. Donne-nous cette foi en ta toute puissance, Seigneur. Pour faire individuellement ce que tu nous appelles, pour faire en famille ce que tu nous appelles, pour faire en groupe maison ce que tu nous appelles, pour faire en église locale ce que tu nous appelles, pour faire en église régionale de Trois-Rivières ce que tu nous appelles, et à faire comme église mondiale, le corps de Christ, ce que tu nous appelles. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus.